À l'intérieur de ce bâtiment, nous avons donc un service social composé de 5 assistantes sociales qui recouvrent une grande zone de la Haute-Corrèze, hein, plusieurs cantons, et un service de protection maternelle infantile avec une puéricultrice. On a aussi deux référents qui sont au service de l'insertion pour les bénéficiaires du RSA, une conseillère habitat pour travailler sur le relogement. Et puis, on a deux secrétaires qui font l'accueil du public.
De qui dépendent ces services sociaux? C'est qui votre employeur?
Essentiellement, le conseil départemental de la Corrèze.
C'est donc le conseil départemental de la Corrèze qui décide des grands axes de la politique sociale que vous menez ensuite sur le terrain?
Oui, c'est eux qui ont pour mission donc de déterminer des grandes orientations de politique d'action sociale. Bon, ce sont des politiques qu'on retrouve bien sûr au niveau national, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Et on est censé quand même mettre en application le dispositif qui permet d'aider des publics en précarité.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le quotidien d'une assistante sociale en général et en particulier à Égletton en Haute-Corrèze?
Notre métier, c'est d'accueillir quand même le public, tout public, avec une équité et aussi avec une honnêteté parce qu'on a des règles d'éthique et déontologiques qui sont un cadre dans notre profession. Et donc, les gens nous font appel directement pour de multiples problématiques. Et nous avons aussi, en interne, nous avons des demandes qui sont faites par les services. On doit essayer à réunir un petit peu donc, l'ensemble. Des fois, c'est paradoxal, un peu la demande du service et la demande du public n'est pas toujours dans le même sens. Et on doit quand même se travailler à un peu adapter les uns les autres.
Qui vient vous voir et pour quelles demandes précisément? Est-ce que vous avez des exemples?
On a des demandes très variées, hein, mais bien sûr, on pense souvent donc à l'orientation vers de l'information, vers des conseils, de la demande d'aide aux démarches administratives. C'est sûr que c'est une majorité, avec les demandes d'aide financière, bien sûr, puisqu'il y a une grande précarité quand même dans notre public, hein. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre travail. L'essentiel de notre travail, ça porte quand même sur l'aide au changement de la personne, à son épanouissement quand même. Il y a un travail d'écoute qui est important et avec des entretiens qui permettent une évolution aussi, une reconnaissance des capacités des gens afin qu'ils évoluent, qu'ils s'adaptent aussi à notre vie actuelle, à notre société. Et c'est un travail de longue haleine.
Quand on pense assistance sociale, on pense souvent RSA. Est-ce que c'est une grosse partie de votre travail?
C'est une grosse demande de nos services, en tout cas, c'est vrai, qui prend du temps parce qu'effectivement, il y a un dispositif qui est mis en place pour que absolument tout public qui est bénéficiaire du RSA puisse avoir un contact et un accompagnement avec le service social. Et ils établissent un document qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque, sur laquelle est marqué noir sur blanc leurs engagements à améliorer leur situation. Et ça, c'est sûr que c'est une part de notre travail à l'heure actuelle, depuis 2 ans, qui est importante.
Combien de dossiers vous avez à votre charge personnellement?
J'ai une vingtaine de dossiers. Bon, après, je suis sur un secteur rural, un peu semi-urbain, donc... Après, c'est très variable et on partage notre travail avec des référents qui sont, eux, uniquement dans l'accompagnement de ces bénéficiaires, ce qui n'est pas notre cas à nous, puisqu'on a d'autres tâches. Et donc, ces référents-là accompagnent les gens uniquement, ceux qui sont proches, on appelle ça proches de l'emploi, qui ont des capacités qui peuvent être employables. Par contre, au niveau du service social de secteur, restent les gens qui ont de grosses difficultés, qui ne sont pas autonomes dans leur démarche, maîtrisant mal l'écrit ou la communication, ou qui ont de grosses fractures personnelles au niveau difficultés psychiques, ou voilà, qui ont de grosses ruptures aussi sociales. Voilà.
Comment vous faites j'aime pas le terme, mais comment vous faites le tri, entre guillemets, entre les dossiers où vous vous dites cette personne-là pourrait retrouver un travail et cette personne-là va difficilement retrouver un emploi?
On peut effectivement faire un premier tri. C'est pas toujours une vision juste. Effectivement, comme vous le dites, c'est pas toujours une vision juste. Donc à ce moment-là, on oriente différemment. On peut tout à fait réorienter la personne. Après, le tri est très vite fait parce que c'est une demande du service. Hein. Donc on réunit l'ensemble des gens tous les mois qui rentrent dans le dispositif. À l'issue de cette réunion, donc on se détermine un petit peu, mais c'est déterminé sur une période limité dans le temps, et donc ils sont revus. Et à fur et à mesure qu'on les revoit, on évolue et on les comprend mieux, ou on les entend mieux aussi, et donc on peut réorienter les gens. Il y a une partie des gens d'ailleurs qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui sont suivis par l'association Cap Emploi sur le département. Tous ces gens-là, déjà, c'est déjà une grosse part des bénéficiaires de l'allocation du RSA. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même, il y a des gens qui ont cette reconnaissance travailleurs handicapés. Et aussi des gens un public âgé qui est proche de 60 ans. On n'a pas forcément qu'un public qui a 30-40 ans, employable, voilà.
Alors j'imagine que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec la caisse d'allocation familiale, avec les centres communaux d'action sociale, Pôle emploi, la sécurité sociale ou encore diverses associations. Comment vous faites le lien entre toutes ces institutions ?
C'est un travail quotidien et c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires et qu'on est amené à rencontrer effectivement aussi ou à évaluer aussi des situations communes, que ça soit avec les CCAS quand ils sont en zone, là, comme ici sur la même commune. Pour l'emploi, donc on les voit un petit peu moins parce qu'ils sont un peu, je dirais, ils travaillent un petit peu quand même en interne. Le service social qui aident aussi les élèves au niveau du collège aussi, sont un très bon relais avec nous en ce qui concerne l'enfance.
Est-ce que vous avez des associations privilégiées avec lesquelles vous travaillez ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de... C'est selon les situations, hein. On va de l'avant et puis on a un devoir aussi de toujours être en recherche de solutions. Donc effectivement, on va rechercher... Qui va pouvoir aider cette personne-là ? Donc on va s'ouvrir ou aider ou amener la personne à contacter tel ou tel service ou tel et tel milieu associatif. Donc on va réorienter les gens et c'est un travail quotidien de recherche avec ce qui existe sur l'ensemble du département de la Corrèze.
Tout à l'heure, vous parliez de déontologie. Comment on trouve le bon positionnement, la bonne attitude face aux personnes qui viennent vous voir, qui viennent vous demander de l'aide ?
Ben, c'est un métier, ça fait partie de notre formation, qui est sanctionnée par un diplôme d'État. Et donc, l'avantage de ce métier, effectivement, c'est d'avoir des règles éthiques et de déontologie, notamment liées à l'honnêteté et au secret professionnel aussi, qui est quand même... une règle de base et les gens viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ce service-là auprès de nous.
Est-ce que vous vous contentez, entre guillemets, d'aider les personnes qui viennent vous voir ou est-ce que vous pouvez aussi intervenir quand on vous signale le cas d'une personne en difficulté, une personne isolée ?
Il faut qu'il y ait à la base une demande et une volonté des gens de nous rencontrer. Donc on s'assure toujours que les gens ont accepté de nous rencontrer. Effectivement, si on passe par une tierce personne qui signale quelqu'un, on souhaite que les gens, avant tout, aient eu connaissance que la personne venait faire ce signalement-là. On n'intervient pas, non, sans... on ne tombe pas sur les gens comme ça, non. Il faut qu'il y ait des règles. Et la première règle, c'est que les gens arrivent à se mobiliser déjà un minimum vers nous. Les seules choses où on intervient spontanément, c'est dans les cas de maltraitance pour les enfants, où là, effectivement, on va venir au-devant de la famille.
J'imagine que quand on vient vous voir ou que vous allez au-devant de certaines situations, vous suivez des procédures qui sont bien mises en place. Est-ce que néanmoins, il vous arrive parfois d'improviser face à des situations d'urgence ?
On est obligé de s'adapter, oui, très vite, hein. Après, c'est une question d'expérience. Hein. On est obligé de suivre les gens et de trouver un domaine qui va valoriser leurs compétences. Donc, on va trouver une adaptation très, très vite, oui. Soit au comportement des gens dans le cadre d'un entretien, où il va falloir réagir et sentir s'il y a des tensions, par exemple. C'est un travail, de négociation et d'adaptation au cours d'un entretien.
Pour répondre aux demandes d'aide qu'on vous fait ou traiter les dossiers, est-ce que c'est des décisions que vous prenez seul ou en commission ?
Ah oui, il y a une grande part de décisions que l'on prend seul. Après, tout ce qui concerne des évaluations, ça, ce sont des dossiers qui rentrent dans des dispositifs avec des procédures qui sont liées à d'autres services au conseil départemental. Après, où on travaille en équipe, ce sont sur des situations familiales où on nous demande une évaluation, toujours dans le domaine souvent de la protection de l'enfance. Et là, on fait un travail d'équipe en associant une psychologue sur les équipes avec un encadrant de proximité. Et là, on a une évaluation faite effectivement avec d'autres personnes pour avoir d'autres regards, croiser d'autres points de vue. Et puis, c'est un travail qui se fait aussi sur le temps. Il y a un mûrissement aussi qui se fait au sein d'une équipe et dont on a besoin aussi d'avoir des échanges et de s'appuyer sur d'autres métiers, un conseiller en économie sociale et familiale qui peut intervenir aussi, voyez, sur d'autres partenaires aussi comme ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce travail d'assistante sociale, c'est un peu un travail d'avocate sociale ?
Une part, c'est peut-être un travail de défense de la personne qui a du mal effectivement à faire valoir ses compétences ou à s'exprimer ou à faire valoir des droits. Ça peut être une petite part de travail d'un avocat, sauf qu'on ne va pas l'accompagner jusqu'au tribunal, bien sûr, ni déposer des requêtes. Et puis la connaissance du droit aussi. Qu'on va apporter la législation dans le domaine familial, dans le domaine du droit du travail. C'est une petite part aussi qu'on a. On est assez pluridisciplinaire quand même et très généraliste en même temps, hein, dans notre formation et dans nos connaissances qu'on met à disposition du public.
Vous êtes au quotidien confronté à des problématiques sociales. Comment vous faites le lien entre le terrain et l'administration, les élus ?
On a des systèmes pour faire remonter, si vous voulez, par voie hiérarchique, on fait remonter, si vous voulez, des questionnements qu'on retrouve ou des problématiques. Par exemple, en ce moment, on peut avoir l'arrivée de quelques personnes réfugiées ou de mineurs étrangers qui posent un problème aussi pour les aider. Donc, c'est des questionnements dont on relance, si vous voulez, par voie hiérarchique pour avoir une réponse. Et des fois, il faut attendre un petit peu, mais bon... On a quand même des réponses en retour, des positionnements de service. On a besoin aussi d'attendre ça pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer.
Vous dites que des fois, il faut attendre un petit peu. Est-ce que la collaboration entre le terrain et l'administration se passe bien ? Ou est-ce que des fois, vous avez des cas de conscience face à des dossiers qui traînent un petit peu ou qui sont refusés, rebootés ?
Bien sûr qu'on a on a toujours des questions et puis, si vous voulez, il y a quand même un cadre. À chaque dispositif, un cadre. Donc, on sait qu'il va y avoir des critères, qu'il va y avoir une limite avec des critères. On l'annonce quand même aux gens, ça, on ne triche pas là-dessus. Donc, on ne fait remonter que les dossiers qui rentrent dans ces critères en même temps. Alors, évidemment qu'il y a des gens qui vont rester à côté. Après, on peut voir, il y a peut-être d'autres solutions aussi. On a des accompagnements, j'allais dire, sur le budget, par exemple, qui peuvent être une autre solution pour que les gens soient autonomes. Il n'y a pas que de la redistribution non plus qui peut aider les gens, loin de là.
Est-ce que parfois vous vous sentez un petit peu coincé entre le marteau et l'enclume, à savoir la personne qui vient demander de l'aide ou de l'assistance, et l'administration et les services ?
Bien sûr, on est tout à fait on est tout le temps dans le paradoxe entre les demandes des gens et l'adaptation aux services, à l'évolution des services qui n'ont pas spécial en Corrèze, hein, qui sont quelque chose d'évolution de notre société et des organismes à l'heure actuelle qui ont des contraintes budgétaires et donc on est obligé de trouver cette adaptation-là entre les deux, c'est sûr.
Est-ce que vous constatez ou pas une dégradation de vos conditions de travail ?
Concrètement, il n'y a pas de grosse dégradation des conditions de travail. Il y a une grosse inquiétude qui pèse quand même sur les agents, sur mes collègues. Il y a des contraintes supplémentaires, effectivement, qui nous ont été amenées, hein, des contraintes de s'auto-évaluer en même temps qu'on travaille. On est toujours en train de penser qu'il va falloir justifier son poste. Il y a une grosse crainte que les postes soient supprimés, bien sûr. On va justifier, on va calculer, on va faire des statistiques pour tenter, si le jour où il manque quelqu'un, eh bien qu'on puisse demander à l'appui, parce qu'il réévalue tous les postes, bien sûr. Mais pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas eu de perte d'emploi ici dans le département. Hein.
Vous êtes aujourd'hui assistante sociale de secteur à Égletons. Vous avez été assistante sociale sur le plateau de Mille Vaches. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces années passées sur le plateau ?
Voilà, bien écoutez, malgré de magnifiques paysages qu'on a le loisir de découvrir sur les temps de trajet, c'est vrai que l'isolement du public par rapport à des services, à des équipements qui auraient pu leur rendre service, c'était quand même un gros inconvénient sur cette zone-là. Après, c'est pareil, dans ce qui concerne le domaine de l'emploi, il y avait quand même de grosses limites et on pouvait voir qu'il se dégageait un petit peu, entre autres, à part le travail d'aide à la personne pour les femmes. Et à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de travail pour les hommes dans le domaine du bûcheronnage, ce qui n'est plus le cas maintenant, ça a un petit peu évolué. On était très limités pour proposer et trouver quelques solutions pour que les gens y trouvent des moyens de vivre sur le plateau, tout au moins dans le part de public qui me concernait.
Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans le détail entre les grosses différences et les points communs qu'on trouve au niveau des problématiques sociales sur le plateau de Mille Vaches et sur le secteur d'Égletons ?
La problématique de l'isolement quand même, du manque des possibilités de déplacement de la population, que c'est toute une organisation, ne serait-ce que pour avoir un colis alimentaire de base ou des choses comme ça, ou même faire suivre un enfant auprès de services spécialisés pour améliorer donc leur apprentissage, c'est quand même un gros inconvénient pour cette population quand même. Ce qu'on n'a pas quand même sur place à Égletons, une ville à taille humaine, où les gens peuvent quand même aller très vite vers des services et avancer, et autonomes déjà, être autonomes par eux-mêmes.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté d'être assistante sociale sur le plateau ?
L'occasion du changement à Égletons, j'avais fait 9 ans, je trouve que c'était déjà une bonne période, et donc l'occasion a permis d'être sur Égletons et justement de bénéficier d'un entourage avec des associations, avec un CCAS, et c'est un peu plus dynamique quoi, au niveau du social.
Vous êtes assistante sociale, un mot a fait son apparition il y a quelques années, c'est le mot « assistana » qui est devenu célèbre dans une formule de Laurent Wauquiez qui parlait de cancer de la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette connotation péjorative qu'a le mot assistanat et de la formule de Laurent Wauquiez ?
Je pense que ce mot est dépassé. Je pense que ça a été une idée à un moment donné, effectivement, fortement exprimée un peu par différentes personnalités politiques, puis même dans la société, largement répandue. Et puis finalement, on va être dans le devoir de maintenir quand même une aide sociale pour une partie de la population.
Quand on parle d'assistanat, on parle assez rapidement ensuite de fraude aux aides sociales. Haute Cournée, la sous-directrice de la Caisse nationale des allocations familiales en charge de la lutte contre la fraude, déclaré sur le site publicsénat.fr, le niveau de fraude est tout à fait minoritaire, 99% des familles jouent le jeu. Qu'est-ce que vous pensez de cette dénonciation de la fraude aux aides sociales qui est contredite par les chiffres ?
Cette notion de fraude et de contrôle de la population, ça rentre effectivement dans ce phénomène actuel de vouloir maîtriser tous les budgets. On a amplifié le contrôle effectivement à différents niveaux, que ce soit sur les caisses d'allocation familiale ou sur d'autres prestations, même sur le poids, j'allais dire, des agents d'une collectivité. On va penser aussi qu'ils peuvent frauder sur des arrêts maladie. Donc on est dans cette notion de contrôle et ça c'est partagé largement. Je pense au travers différentes collectivités, des institutions ou même des entreprises privées. Après, les prestations familiales, quand on est sur un domaine où on connaît sa population, il y a quand même moins de risques de fraude quand les services sont dépassés et qu'ils ne repèrent pas la population ou qu'elle bouge beaucoup sur des zones comme ici. On a quand même des liens avec les gens et on recoupe quand même les choses avec d'autres partenaires.
Et qu'est-ce que vous pensez du phénomène qu'on appelle le non-recours, à savoir ces personnes qui auraient droit à des aides sociales mais qui ne les demandent pas? C'est une économie entre guillemets pour l'État de 5 milliards, puisque en gros une personne sur deux qui pourrait avoir accès au RSA ne le demande pas. Et on a aussi à peu près 5 milliards qui sont économisés sur des aides au logement ou des allocations familiales qui ne sont pas demandées. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène du non-recours?
Il est vrai que les gens ne connaissent pas tous leurs droits, c'est vrai. Après, les gens ne sont pas forcés non plus de rentrer dans des dispositifs assez contraignants pour obtenir quand même cette fameuse allocation, notamment du RSA. Il y a des contraintes. Après, les gens sont quand même, s'ils remplissent pas ces contraintes, ils peuvent être sanctionnés. Donc, il y a des gens qui font le choix à l'heure actuelle. Et puis, c'est assez compliqué aussi le montage de dossiers. Il se complique énormément aussi avec l'accès du numérique. L'accès au numérique, c'est aussi à l'heure actuelle, par rapport aux caisses qui ouvrent des droits sociaux, comme ça, les acquis sociaux, devient problématique quand même pour une partie du public qui n'a pas d'ordinateur, qui peut être sur encore des zones qui ne sont pas desservies par Internet et qui n'ont pas eu l'apprentissage non plus d'un outil. Et puis il y a très peu de communes qui mettent à disposition ici des services publics d'informatique, de points. Même s'il y a quelques développements, on trouve des maisons de services qui sont développées sur quelques points du territoire, c'est quand même peu fréquent encore. Et donc ça fait partie d'une grande difficulté à l'heure actuelle pour acquérir ces droits. Et même les gens viennent ici au service social, on fait des démarches à leur place. Ça pose la question aussi parce qu'on est obligé de leur créer, il y a une obligation de leur créer des boîtes mail alors qu'ils n'auront pas accès à une boîte mail dans la procédure. Ça reste une grosse difficulté quand même pour la population.
Pour conclure sur ce phénomène du non-recours, je rappelle quelques chiffres. On estime à 4 milliards à peu près la fraude aux aides sociales et on estime que 5 milliards d'euros ne sont pas réclamés par des gens qui auraient droit aux aides sociales, 5 milliards d'euros auxquels on peut rajouter 5 autres milliards d'allocations logement et d'allocations familiales qui ne sont pas réclamés. On peut mettre ça en balance avec les 16 milliards d'euros qui correspondent à la fraude aux cotisations sociales ou encore aux 60 à 80 milliards d'euros qui, eux, correspondent à l'évasion fiscale. Fin de l'aparté. Pour revenir à votre métier d'assistante sociale, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir assistante sociale?
Bon, d'abord, ça remonte quand même à plusieurs dizaines d'années. À cette époque-là, c'était un peu dans la vogue du temps de faire des sciences humaines. Ça a changé puisque maintenant, les écoles de services sociaux recrutent beaucoup moins à l'heure actuelle, hein. Voilà, c'était dans ce domaine-là. Et puis moi, voilà, les personnes m'ont toujours intéressée, l'histoire. Et puis c'est vrai que d'avoir une approche un peu de l'intimité de la personne est une chose voilà, qui me convenait par rapport à mes compétences personnelles.
Vous allez peut-être pouvoir répondre à une question que je me pose depuis des années et à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse. Pourquoi est-ce qu'on trouve une immense majorité d'assistantes sociales et une minorité d'assistants sociaux?
Je pense qu'il faut poser la question à un garçon, pas à une fille. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire de sexiste en répondant, donc je ne sais pas.
J'aurais pas de réponse aujourd'hui. Enfin, en conclusion, quelles sont les principales évolutions positives ou négatives que vous notez depuis que vous êtes assistante sociale?
La plus grande difficulté, ça a été effectivement l'empilement de procédures par les organismes, si vous voulez, par les employeurs. Toutes ces procédures-là se sont multipliées et mangent beaucoup de temps. Donc on a perdu sur la qualité de la relation, du temps qu'on se donnait pour travailler au changement avec une personne.